103,5.
Chronique étudiant, camarades étudiants, nous savons qu'en ce moment, la plupart d'entre vous sont en train de préparer leurs travaux de fin d'études. Cependant, un certain nombre d'instituts supérieurs et universités à travers le pays ont déjà organisé la cérémonie des grades, des collations des grades académiques pour la première session. Cependant, la majorité des étudiants n'y participent pas. Ils reviennent en masse en deuxième session. Pourquoi cela? Le sujet vous intéresse, appelez-nous au 081 890 63 94 pour participer à cette émission. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos SMS au 081 070 2050. Pour l'instant, nous faisons le point de la situation avec notre confrère Fidèle Kakessa. Bonjour Fidèle.
Bonjour Jody, je dis bonjour aux auditeurs de Capi Action.
Fidèle, vous avez assisté le vendredi dernier à une collation de grades, à une cérémonie de collation de grades académiques. C'était précisément à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIT en sigle. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui a régné ce jour-là?
Et je dis, vous savez, c'est une petite cérémonie qui s'est déroulée presque dans l'intimité de l'enceinte même de l'IFACIT. Une cérémonie sans tambour ni trompette, comme on a l'habitude de le dire.
Oui.
Et sachez plutôt que 3% seulement des étudiants de cet établissement qui forment des journalistes ont reçu leurs titres académiques. Et d'après les informations reçues, la plupart de ces étudiants sont ceux qui étaient ajournés pour la mémoire l'année académique précédente. Et pour plus d'informations, je vous propose d'ailleurs d'écouter le professeur Alexis Mbikai, qui est secrétaire général académique de l'IFACIT.
Aujourd'hui, nous avons eu, pour ceux qui sont diplômés, 8 étudiants en troisième graduat et 8 autres au niveau de licence. Donc, licence en communication sociale, licence en communication des organisations, en journalisme politique intérieur et extérieur et en édition multimédia. Donc, au total, nous avons eu 16 diplômés. Eh bien, l'ambiance était bien, bon enfant, ça s'est déroulé dans le calme, sauf que par rapport à l'ensemble, nous n'avons enregistré que 3%.
Fidèle Kakessa, avez-vous parlé avec quelques étudiants finalistes de graduat ou de licence pour savoir pourquoi ils ne sont pas prêts?
Effectivement, la plupart des étudiants interrogés avancent des raisons telles qu'ils n'ont pas pu réussir en première session ou soit ils n'ont pas terminé la rédaction de leurs travaux de fin de cycle. Je vous propose de suivre leurs propos à travers cet élément.
Ce n'est pas totalement de ma faute parce que ça dépend aussi de la disponibilité du directeur de mon travail. Comme il n'était pas assez dispo, alors on n'a pas pu terminer avant la première session.
J'ai pas réussi en première session. Il fallait que je réussisse, je satisfasse en première session pour que je sois courrier, même malheureusement, j'ai pas satisfait.
Pour mon cas, bon, comme tout le monde, je suis en deuxième licence, il faut que je cherche quelque chose. Je me prends en charge, je travaille quelque part et de temps à autre, je donne le temps à tout, aux études et à mon travail vraiment. Et j'essaie de rédiger mon travail, mais comme vous savez, les professeurs aussi sont trop occupés. Il y a des fois, tu fais un peu d'avancée, mais tu ne vois pas ton lecteur, tu ne vois pas ton directeur. Et tu es seul à un certain moment, tu passes autant de jours où tu ne vois personne. Dans l'entretien, temps, il faut que tu prépares des examens.
Bon, y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. En ce qui me concerne personnellement, en fait, j'ai eu un peu de retard dans la rédaction de mon travail de fin d'études. Je crois que c'est ce qui a empêché un peu que je sois parmi les lauréats en première session. Et puis non seulement ça, en fait, j'ai aussi quelques examens à reprendre. Or, la condition sine qua non pour être lauréat en première session, il faut réussir au cours et puis défendre son mémoire. Ce n'est pas le cas pour moi, malheureusement.
Camarades étudiants, réagissez, appelez-nous au 081 890 63 94. Vous pouvez envoyer vos SMS au 081 070 2050. Alors, Fidèle Kakessa, certains étudiants accusent les professeurs du fait que ces professeurs ont des engagements par-ci par-là. Ils ont de moins en moins de temps à consacrer à l'encadrement des étudiants pour la rédaction de leurs travaux. Est-ce que cela est vrai?
Et oui, c'est ce que la plupart des étudiants affirment. Pour en avoir le cœur net, nous avons approché le professeur Denis Okatou, qui encadre les travaux de fin de cycle d'une vingtaine d'étudiants. On peut l'écouter.
Non, mais ça, je crois que c'est un faux fruit, hein, parce que nous faisons tout, en tout cas, ces dernières années, nous faisons un effort pour que les travaux, les sujets soient agréés le plus tôt possible, de manière que les professeurs et les étudiants puissent à temps commencer à travailler sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les étudiants viennent vous voir après 5, 6 mois ou 4 mois ou 3 mois pour commencer à travailler. Or, Un travail comme celui-là, c'est un processus. Vous ne pouvez pas le liquider en très peu de temps. C'est comme quand tu construis une maison, de façon normale. Ça demande que vous y alliez petit à petit, etc., etc. Donc très souvent, les étudiants s'y prennent en retard. Si bien que quand on arrive à la première session, ils ne sont pas prêts et ils sont tous renvoyés malheureusement à la deuxième session. Mais à partir de mon expérience, je préfère une extension en disant que les étudiants font de la négligence.
Alors Fidèle Kakessa, nous avons entendu que les étudiants préfèrent souvent revenir en deuxième session parce qu'il y a, beaucoup plus d'ambiance, il y a beaucoup plus d'engouement, on organise des fêtes par-ci par-là, on se retrouve avec des camarades étudiants. Alors on le saura peut-être avec notre invité, il s'agit du professeur Bundimani Yambuku, doyen de la faculté de communication aux facultés catholiques de Kinshasa. Il est également professeur à l'IFACIC. Merci Fidèle Kakessa pour toutes ces informations et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Okapi Action.
Merci de nous suivre partout en République démocratique. À la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale.
La législation congolaise réglemente la manière dont...
Pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture.
Pendant tout ce temps, ils coupaient les salaires des infirmiers à la source.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez, Madame Brugit?
Nous ne sommes pas d'accord avec cela.
S'il vous plaît, Madame Brugit. S'il vous plaît, Madame Brugit. Est-ce qu'on peut s'écouter?
Au Capi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Professeur Bundimani Yambu, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes professeur d'université, communicologue, éditologue et journaliste. Et vous êtes doyen de la faculté des communications sociales aux facultés catholiques de Kinshasa. Et vous êtes également professeur à l'IFACIC. Alors, pouvez-vous nous dire si les étudiants reviennent souvent en deuxième session? Certains avancent des raisons telles qu'ils n'ont pas terminé leur mémoire. Est-ce que c'est parce que les professeurs n'ont pas du temps à leur consacrer pour leur encadrement?
Là, il y a toujours une stratégie de bouc émissaire. De trouver des boucs émissaires.
Oui.
Si les étudiants veulent être honnêtes, ils reconnaîtront que, d'une part, si on peut dire, le faible taux de présentation de mémoire en première session est lié à une conjoncture générale qui fait que les étudiants, très très peu, se choisissent des sujets de mémoire de la deuxième année de graduat, comme c'est prescrit dans le règlement de la plupart d'universités.
Et pourquoi ils ne le font pas? Peut-être parce qu'ils ne sont pas informés.
Non, ils sont informés. Ils doivent l'être parce que le règlement, bon, c'est vrai que ce n'est pas suffisamment vulgarisé, mais même dans les instituts, les écoles où le règlement est vulgarisé, il y a très peu d'étudiants qui prennent soin de se chercher un sujet de mémoire en avant dernière année, donc à l'année qui précède l'année terminale. C'est le premier élément qui occasionne le retard.
Mais professeur,
le second,
oui, je vous coupe un peu la parole, professeur. Nous savons que lorsque un étudiant, par exemple un élève qui vient de terminer les humanités, arrive à l'université, il y a un service de guidance, on le reçoit, on l'informe sur ce qu'il doit faire. Mais on a l'impression que ces services n'existent presque plus dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur.
Bon, je veux dire, je voulais aussi parler de cet élément, mais en dernier lieu. Peut-être que si vous voulez que je le mette en premier lieu, je dirais il y a la désorganisation totale de l'université, des universités, le manque de financement des universités par les pouvoirs publics, qui fait que c'est difficile de créer des services, de faire fonctionner les services d'information, d'accueil, de guidance. C'est des services qui ne génèrent pas de l'argent et qui doivent plutôt en dépenser. Mais combien l'État met à la disposition de ces services-là d'information, de guidance des étudiants? Très, très peu. Ça, c'est évident. Mais c'est depuis des années et qu'il ne faut pas s'en plaindre parce qu'on y est habitué. Et c'est pour ça que j'évoque plutôt les motifs les plus immédiats et qui dépendent des acteurs du système. Donc, les acteurs du système, c'est d'abord les étudiants, qui est en priorité. Il n'y aurait pas d'université sans étudiants. Les enseignants viennent aider. Donc, les deuxièmes acteurs, c'est les enseignants. Et que si les étudiants rejette la faute sur les enseignants. Non, c'est la politique de bouc émissérisation, donc accuser les autres. Ouais. Je dis, premier élément, il faut d'abord voir du côté des étudiants. Combien se choisissent un thème de recherche en année terminale? Ils doivent savoir le règlement et on leur rappelle, mais des fois, beaucoup ne suivent pas. Deuxièmement, combien d'étudiants sont réellement étudiants à temps plein? Et vous avez entendu dans les éléments qui sont passés, oui, certains dire « oui, je passe mon temps entre les études et le travail ». Mais on a une série d'étudiants qui travaillent pendant qu'ils étudient. Et ce n'est pas évident de pouvoir jongler, oui, avec des programmes de cours qui sont contraignants et un horaire qui vous oblige à être en permanence sur le campus pour suivre le cours sans avoir suffisamment le temps de consulter les bibliothèques. Ouais. Et là, l'étudiant qui déjà est étudiant à temps plein ne sait pas s'organiser, a fortiori, pour une certaine catégorie d'étudiants qui travaillent. Troisièmement, il faut noter que certains étudiants verse dans la paresse, qu'ils attendent, je sais pas, que le miracle vienne de quelque part. Mais ouais, certains prétextent, et j'utilise bien le mot, le prétexte, ils prétextent qu'ils manquent de moyens. Et moi je dis, je leur réponds souvent, on ne peut pas s'engager dans une formation de niveau universitaire, même au secondaire, sans avoir les moyens de pouvoir payer. Et qu'un étudiant de niveau supérieur, s'il veut réellement étudier, il se consacre totalement à ses études et il oblige ses parents à payer
les frais. Professeur, comment les parents vont payer les frais alors qu'ils sont, impayés?
Oui, mais il faut quelquefois sortir du cercle vicieux. Parce que certains disent, les parents ne sont pas payés, donc nous avons des difficultés. Ben, finalement, on tourne en rond. Non, celui qui veut étudier se donne les moyens d'étudier correctement pour se former pour l'avenir. Mais on a l'impression que beaucoup d'étudiants viennent, excusez-moi le terme, bricoler en espérant avoir un diplôme très facilement. Et dans ce cas-là, il y en a qui traînent, mais vous savez combien il y en a qui reprennent les années de manière interminable et qui ne finissent jamais, oui, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils cherchent les moyens. C'est pas normal. Il faut être rationnel. Être rationnel, c'est calculer où on travaille pendant 2 ans pour accumuler les moyens et venir faire une scolarité normale, ou alors on travaille et on n'étudie pas. Mais ici, on a des gens qui bricolent, qui veulent à la fois travailler, à la fois étudier. Et ça, c'est la première responsabilité des étudiants, de se corriger. Oui. Maintenant, du côté des enseignants.
Voilà, reconnaissez-vous quand même que certains enseignants travaillent aussi par-ci, par-là, ils ont des extramuros pour arriver à nouer le bout du mois et ils n'ont pas assez du temps à consacrer à ces étudiants. Non, pour certains étudiants qui sont disponibles et qui ont envie de travailler.
Oui, j'aimerais bien que certains étudiants, expressément que vous dites, se sont disponibles. J'aimerais bien en voir ceux qui se plaignent de n'avoir pas été bien encadrés, de n'avoir pas fini leur mémoire par la faute des enseignants. Non, il y en a, mais c'est vrai, moi j'ai l'expérience de ce genre de dérobades où on essaie de rejeter la faute sur l'autre. Il y en a qui vous déposent un travail ou un projet et qui disparaissent. Mais il n'est pas de la responsabilité d'un enseignant de chercher un étudiant. C'est à l'étudiant de demander correctement un rendez-vous et de l'obtenir dans les délais. Mais si l'étudiant disparaît, qu'est-ce que vous voulez que l'enseignant fasse?
L'étudiant peut revenir et l'enseignant dit « je ne suis pas prêt, tu reviens prochainement ».
Oui, mais et c'est là que se trouve la deuxième erreur d'appréciation de la part des étudiants. Oui. C'est que certains étudiants pensent que les enseignants, c'est des gens qui dorment et que l'on peut réveiller à tout moment pour qu'ils sautent sur le travail de l'étudiant. Non, un enseignant, il a des cours à donner, il a des examens à corriger, il a un emploi du temps, et si on ne prend pas un rendez-vous aux heures où il est disponible, naturellement, ça ne sera pas possible. Et certains étudiants ignorent ces règles élémentaires. Ils pensent que quand ils veulent être reçus, ils doivent être reçus et que l'enseignant doit arrêter ses programmes. Non, ça ne se fait pas comme ça.
Prenons votre cas par exemple, professeur. Combien de mémoires, des travaux avez-vous dirigé cette année aux facultés catholiques de Kinshasa?
Là, c'est un autre élément. C'est pour ça que je voulais parler du côté des enseignants.
Ouais, ouais.
Ce qu'on reproche aux enseignants, c'est superficiel, que les enseignants sont très occupés, qu'ils ont des activités à gauche et à droite, des extramuros. Mais cela est lié d'abord au système général de l'enseignement où les enseignants sont mal payés et que l'enseignant honnête qui veut nouer les deux bouts du mois doit pouvoir aussi essayer de rallonger ses revenus. En ne sacrifiant pas. Et deuxièmement, ce n'est pas l'État, c'est l'État qui ne paye pas assez, qui doit porter le chapeau. Il ne faut pas faire porter le chapeau à celui qui cherche le moyen de se tirer d'affaires. Et dans ce cas-là, quand un enseignant, il faut voir aussi la surcharge de travail. Et c'est là que je vais répondre à votre question, par exemple, sur combien de mémoires on dirige.
Oui.
Mais vous savez, le taux d'encadrement actuel des étudiants par enseignant à l'université, mais c'est hors norme. Les normes de l'UNESCO fixent un taux moyen d'un enseignant, un professeur pour 20 étudiants, pour que l'encadrement soit efficace. 20 étudiants, ce n'est pas au niveau de mémoire, hein, non,
oui.
C'est au niveau de l'enseignement.
L'enseignement.
Bon. Et si on a 20 étudiants enseignant, on peut mieux les encadrer. Mais au niveau des mémoires, naturellement, un enseignant peut avoir 5, 6, 10 mémoires. Mais qu'est-ce que l'on a aujourd'hui?
Certains vont jusqu'à 30, ils dirigent.
Non, d'abord, le taux d'encadrement, un enseignant a une classe de 2000, 3000. Et ce n'est pas évident. Les classes terminales peuvent être assez élevées et les enseignants ont jusqu'à 30, 40, 50 mémoires. Naturellement, ça joue sur la rentabilité de l'enseignant. Ce n'est pas de la faute de l'enseignant, mais l'enseignant peut dire « je limite à 10 mémoires que je peux lire efficacement oui. ». Mais il rejettera une bonne quantité.
Il peut prendre et survoler juste...
Non, mais c'est ça le problème.
Tout ça te confie la responsabilité au lecteur.
Oh, vous voyez déjà et que dans certaines institutions, les abus qui se créent du fait que les lecteurs demandent d'être payés avant de lire, vu l'abondance de la matière, etc. Mais je vous dirais, c'est un problème assez complexe. Et que tant que l'on n'a pas revalorisé la fonction enseignante, d'une part, et que l'on ait revalorisé le projet de formation des cadres pour l'avenir, on n'en sortira pas. Et moi, je ne suis pas partisan de cette politique qui consiste à chercher le responsable, à chercher quelqu'un qu'il faut punir. Non, il faut voir alors le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est le manque de moyens. Pour l'enseignement. Imaginez, moi je suis scandalisé quand je vois tous ceux qui dirigent actuellement, qui ont bénéficié énormément du financement de l'État pour terminer correctement leurs études à Lovanium ou dans d'autres institutions.
C'est qu'ils ont obtenu des bourses, d'études.
Oui, mais même en Europe, même dans les pays les plus pauvres du monde, un étudiant est formé dans une perspective de former des cadres pour le pays et pour l'avenir. Et dans ce cas-là, on sélectionne les étudiants les plus méritants et qui ont très peu de moyens, on leur donne des moyens d'étudier. Mais chez nous, ceux qui ont bénéficié du système ont supprimé le système. Et nous nous retrouvons avec des étudiants qui ne savent pas financer leurs études parce que leurs parents n'ont pas de moyens de financer, avec des enseignants mal payés qui ne savent pas se donner à fond et des enseignants surchargés qui ne savent pas, malgré leur bonne volonté, il ne faut pas trouver des excuses. Et c'est là que se situe le problème. Quelle est la politique nationale en matière de formation des cadres pour demain? Et là, vous trouverez des raisons de ces faibles taux de réussite.
Il faut
examiner les choses de manière globale, de manière systémique, de plus élargie. Mais je dis, pour me résumer, responsabilité première au niveau des étudiants eux-mêmes qui veulent apprendre et qui doivent apprendre dans les délais. Deuxième responsabilité, peut-être, mais je la trouve assez diluée, c'est la responsabilité des enseignants mais qui subissent la conjoncture malgré leur bonne volonté. Et troisième responsabilité, la responsabilité la plus fondamentale, c'est les pouvoirs publics, ceux qui doivent prendre des politiques pour que l'enseignement retrouve ses véritables racines, c'est-à-dire ses véritables objectifs, former des cadres pour l'avenir.
Donc je suppose que pour résoudre ce problème, il faut d'abord trouver une solution à la situation des crises généralisées dans le pays.
Non, c'est pour
la crise qui touche et les enseignants, et les professeurs, et les parents, touche tout le monde.
C'est pour ça que je dis, bon, s'il faut sérier les problèmes, je dis, premier cas, c'est les responsables eux-mêmes. Si un étudiant veut terminer en première session, il terminera, pourvu qu'il se donne le moyen.
Oui.
S'il veut qu'il soit bien encadré dans les délais, c'est à lui de prendre des rendez-vous convenables pour fixer un planning auprès de ses encadreurs pour terminer dans les délais. Donc, et là, il y a moyen, en ignorant les problèmes de conjoncture, les problèmes de faiblesse de moyens.
Oui.
Oui, ça c'est possible. Mais je ne dis pas qu'il faut attendre qu'on résolve toutes ces questions. Non, ça peut être résolu à ce niveau-là, au niveau de l'acteur principal qui est l'étudiant.
Professeur Bundimani Yambou, je rappelle que vous êtes professeur d'université. Nous recevons dans ce studio plusieurs réactions des auditeurs. La première nous vient de, je vais lire clairement, si nous sommes incapables de terminer à la première session parce que aux facultés catholiques, il faut au moins 65% pour passer en licence. Ça, c'est la réaction d'un auditeur qui, je crois que c'est un étudiant des facultés catholiques.
Non, vous savez que on peut terminer en première session. Il y a beaucoup d'étudiants qui terminent en première session et même avec distinction. Et vous savez, ben j'ai des statistiques de premiers graduats aux facultés catholiques cette année en communication sociale. Mmh. Il y a eu 39 étudiants qui ont satisfait en première session et sur les 39, 13 ont réussi avec distinction. Et c'est des étudiants qui s'appliquent. Ben, il y en a qui trouvent des prétextes, ce n'est pas dit dans la question, que les frais de scolarité sont assez élevés. Mais si on compare au taux des frais de scolarité appliqués ailleurs, au Congo, nous sommes en deçà du coût d'un étudiant.
Ailleurs ou par exemple, professeur?
Dans tous les pays du monde, renseignez-vous, même en Afrique. Il n'y a pas d'étudiants à l'université qui payent, comme on paye dans le public, 150, 180 dollars par an, et on pense que c'est très élevé. Ou là où c'est assez élevé, comme aux facultés catholiques, 375 dollars par an, mais le coût d'un étudiant par université est au minimum de 2000 dollars par an, par étudiant. En Europe, ça, c'est autour de 20 000 euros. Ben, on n'en veut pas comparer avec l'Europe. Les Amériques, certaines écoles privées, ça se calcule en termes de 500 000 dollars.
Oui, professeur, permettez-moi de dire quelques questions. Les étudiants se mettent au travail souvent en retard et par conséquent, on ne sait plus concilier la session et la rédaction du mémoire. Ça, c'est une réaction du docteur Jeannot Kaboué à partir de Kananga. Et nous revenons en deuxième session à cause des problèmes financiers et pour bien préparer nos défenses. Alain Moutache, qui nous a écrit à partir de Lubumbashi. Je m'appelle Gabi Moloué, j'habite Congo, il est au Katanga. D'après moi, les étudiants sont moins encadrés. Les profs, presque tous, ont au moins deux emplois. Votre réaction, professeur?
J'ai déjà répondu à ce genre de questions. Mais quand je dis, si je prends par exemple l'argument de finances, c'est un argument échappatoire. Normalement, la question des réussites d'une année, y compris la rédaction d'un mémoire, le passage d'un stage professionnel dans certaines promotions où c'est requis, c'est lié à la programmation. Mais la programmation dépend de l'étudiant. C'est l'étudiant qui doit programmer parce que le calendrier académique est assez précis, en début d'année, on sait qu'il faut déposer le mémoire à telle date. La session a lieu à telle date. Mais c'est à l'étudiant de programmer. Et si un étudiant s'organise pour programmer toutes ces activités, c'est possible qu'il termine en première session. Et il y en a qui terminent le stage, le mémoire, les cours en première session. Ça existe. Mais c'est des étudiants plus organisés que d'autres. Et ceux qui sont moins organisés cherchent le bouc émissaire.
Alors pour terminer, nous allons lire deux questions. Monsieur Nzewa Mbandaka, il nous dit « Les étudiants qui passent à la première session sont les enfants des professeurs. » Et deuxièmement, une autre réaction, les profs deviennent assoiffés du pouvoir et accordent moins de temps à l'encadrement des étudiants comme aux années 80. Pour preuve, les étudiants qui terminent aujourd'hui n'ont pas les mêmes compétences que ceux qui ont terminé vers les années 80. L'enseignement est bâclé dans notre pays. Ça, c'est, il n'a pas dit son nom, mais c'est un auditeur qui nous a écrit depuis Mbandaka. Professeur.
Oui, j'ai parlé du taux d'encadrement qui est assez élevé. Et il ne faut pas imputer la faute au professeur. J'ai entendu l'argument, et depuis des années, je n'enseigne pas.
Ce sont les enfants des profs qui
échouent ça, ou dans certaines universités où les étudiants qui échouent prétendent que seuls les enfants des professeurs réussissent. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que ça soit vrai. Il peut y avoir des raisons objectives qui justifient que les enfants des professeurs réussissent mieux que les enfants. Parce que c'est d'abord le cadre familial qui donne des leçons suffisamment. Quand un prof travaille à la maison, naturellement, son enfant est en train de travailler aussi. Il a l'exemple au sein de la famille. Tandis que dans d'autres familles, les parents sont tout le temps dans des lieux publics, en dehors des parcelles, en train de causer, les enfants suivent le même exemple. Ils pensent que étudier, c'est une perte de temps. Il faut mener la vie que mènent les parents. Il y en a qui habitent les lieux où il y a beaucoup de bruit.
Et ils n'ont pas le temps
de se concentrer sur leurs études. Mais en même temps, il faut que j'ajoute, mais regardez les conditions d'hébergement. Par le passé, les étudiants le moins nantis qui n'avaient pas de parents habitaient les homes universitaires où les services de repas étaient organisés, le logement était assez salubre.
Oui.
Mais aujourd'hui, naturellement, un enfant de prof qui ne vit pas ces conditions-là de promiscuité, comme vous le dites, de ces conditions de bruit et ces conditions d'exemple familial qui démotive, qui désoriente, mais cet étudiant qui est dans un bon cadre est plus enclin à réussir que d'autres.
Professeur, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à... Comment faire pour que beaucoup plus d'étudiants réussissent en première session?
Je dis revaloriser l'enseignement. Là, vous allez dire, mais c'est pas pour demain.
Oui.
Je dirais qu'il faut multiplier, reconstruire les universités, parce que ce que l'on a aujourd'hui avec un nombre pléthorique d'étudiants, c'est inadmissible, ça ne peut pas continuer. Mais c'est pas une solution de demain non plus. Il faut, vous avez évoqué, quelqu'un a évoqué aussi là, un intervenant, que le niveau de formation du primaire jusqu'au secondaire est assez faible, de sorte que à l'université, vous voyez par exemple qu'on maintient un cours de français à l'université.
Professeur, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire pour...
Mais il faut consolider la formation au primaire, au secondaire, pour que les profs d'université aient des étudiants qui ont un bon niveau de base pour apprendre des matières de spécialité. Mais il faut que les étudiants qui veulent venir à l'université aient conscience que l'université coûte cher, qu'il faut de l'argent, qu'il faut s'y donner totalement, mais pas à temps partiel ou en faisant des jobs à gauche et à droite. Non, il faut que les étudiants aient conscience que c'est eux la clé de la réussite. Sans eux, on ne peut rien faire. Le prof ne peut pas donner des coups de baguette magique, faire des miracles auprès des étudiants qui ne veulent pas s'appliquer.
Professeur François-Xavier Bundimani Yambou, je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des communications sociales aux facultés catholiques de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie.
Merci, à la prochaine.